premier étage. Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pas de son commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pios. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. Allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission L'Envolée sur FPP 106.3 FM en région parisienne et sur une quinzaine d'autres radios associatives qui nous rediffusent dans la semaine suivante et qu'on remercie au passage comme toujours. Voilà, cette émission est enregistrée aux alentours du 20 juillet et sera diffusée pour la première fois le vendredi 24 juillet à l'antenne de FPP. Donc cette émission est enregistrée dans mon salon. Comme vous le savez, on ne peut pas toujours faire les émissions en direct du studio malheureusement et on bricole avec ce qu'on a. Pas grand monde autour de la table, mais pas mal de contributeurs, contributrices à distance de l'équipe de l'Envolée. Donc on aura des contributions de Gabriel, de Inès, de Zéro et de Pierrot peut-être. À l'heure où je vous présente l'émission, je ne suis pas encore complètement sûre. Voilà, voilà. L'Envolée, c'est quoi ? L'Envolée, c'est une émission de radio et un journal contre toutes les prisons qui donne la parole en priorité aux prisonniers, prisonnières et à leurs proches pour parler de ce qu'ils, elles, vivent, ce qu'ils, elles, dénoncent et comment ils et elles se mobilisent. Voilà. Et nous, on est pour certains, certaines proches de prisonniers, anciens, anciennes prisonnières ou en tout cas très concernés par la prison. Et on estime qu'il faut critiquer le système judiciaire, il faut critiquer la prison. Et il faut le faire avant tout en portant la voix tant qu'on le peut, avec nos petits moyens, des prisonniers et des prisonnières. Voilà. Excusez-moi. Donc aujourd'hui, dans cette émission du 24 juillet 2026, de quoi on va parler ? En fin d'émission, on va diffuser un enregistrement qui a été fait il y a quelques mois avec Azé, que j'avais oublié de citer dans les contributrices. Qui est militante antipsychiatrique et contre l'enfermement psychiatrique. Et c'est un enregistrement qu'on avait fait suite à deux autres émissions que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Un enregistrement au sujet de l'enfermement psychiatrique. Avant cela, on va lire des lettres de prisonniers et de prisonnières, comme d'hab, et on va vous donner quelques nouvelles des quartiers de lutte contre la criminalité organisée. C'est pas joli joli, mais au moins on peut dire que ça se bouge. Voilà, on va commencer direct par une lettre de Fabrice. Fabrice, on a beaucoup parlé de lui depuis des années et on continuera à parler de lui. C'est un prisonnier qui a été transféré depuis la Guadeloupe, qui est sa terre natale et sa terre de vie, et donc il a une longue peine et qui s'est rallongée indéfiniment. Parce que depuis qu'il a été transféré en métropole, il réclame à retourner faire sa peine chez lui. Et comme il n'est pas entendu, il le réclame par un peu tous les moyens et il est réprimé. Fabrice, il a subi des violences extrêmes notamment des surveillants ont jeté une grenade assourdissante à côté de lui dans une douche, ce qui aurait pu le tuer et ce qui lui a abîmé très fortement l'audition et qui l'a traumatisé. Je précise parce qu'il en parle dans cette petite lettre qu'on va lire où il nous donne de ses nouvelles. Et il a porté plainte contre eux, ça a été très long. Et alors que sa situation en détention s'arrangeait un tout petit peu, parce qu'il a subi beaucoup d'années à l'isolement, sa situation s'est un petit peu arrangée en détention. Et une fois qu'il a déposé cette plainte contre ses surveillants, et ben il a été renvoyé à l'isolement pour le punir. Donc là, il nous écrit depuis l'isolement à la prison de Condé-sur-Sarthe, qui est déjà particulièrement dure, et il nous donne quelques-unes de ses nouvelles. Et nous, bah, on le salue et on lui souhaite bon courage et de se réparer comme il peut petit à petit et de garder la tête haute comme il l'a toujours gardée, pardon. Force à toi, Fabrice, on l'écoute.
Lettre du 29 juin 2026 depuis Condé-sur-Sarthe. Salut l'envolé. Je tiens le coup en ce moment et je reste fort malgré les difficultés et les épreuves que je traverse et espère qu'un jour, le soleil brillera pour moi. L'ORL m'a dit qu'il va me poser un appareil auditif par opération à l'oreille gauche. Même si je suis sourd, il va se relier à l'oreille droite afin que tous les sons aillent à l'oreille droite. Et là, on attend la réponse de la direction. Pour cela, ils peuvent dire oui ou non. Et aussi, le psychiatre a demandé que je sois dans une unité spéciale pour le stress post-traumatique chronique sévère que j'ai. Mais là aussi, on attend une réponse de la direction. Ils peuvent dire oui ou non. Voilà un peu de mes nouvelles. Force et courage, l'ami Papillon.
Voilà, merci à toi Fabrice pour ces nouvelles et plein de force et de courage à toi. On continuera de donner tes nouvelles. J'ai commencé l'émission un peu sur les chapeaux de roue. J'ai oublié deux, trois choses. Donc j'ai présenté les contributeurs et contributrices de cette émission et j'ai oublié de me présenter moi-même. C'est Elsa qui vous salue. J'ai oublié autre chose qui est beaucoup plus important, c'est de vous donner les contacts de l'émission. Parce que, évidemment, l'émission L'Envolée et le journal L'Envolée n'existent que parce que vous y contribuez, parce que vous réagissez à nos émissions, parce que vous racontez ce que vous subissez et ce que vous dénoncez et vos luttes. Donc, pour nous contacter, que ce soit pour raconter des choses à rendre publiques ou juste pour discuter, n'hésitez pas, c'est par la poste. À l'envolée-fpp, 1 rue de la Solidarité, 75019 Paris. L'envolée-fpp, 1 rue de la Solidarité, 75019 Paris. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone. Donc n'hésitez pas à laisser des messages vocaux sur le répondeur, parce qu'on ne répond pas immédiatement, des SMS ou nous contacter sur Signal. Vous pouvez peut-être même tenter WhatsApp au 07 53 10 31 95. 07 53 10 31 95. Vous pouvez aussi nous contacter par email contact@l'envolée.net et nous retrouver sur notre site internet où on publie les podcasts de toutes nos émissions, les contenus de nos journaux, des lettres de prisonniers et de prisonnières et d'autres nouvelles. Le site internet, c'est l'envolée.net. L'envolée.net, c'est l'envolée avec deux E à la fin, tout attaché, sans accent. Voilà, vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram. C'est l'envolée journal sur Instagram où il y a nos dernières nouvelles. Voilà, ceci étant fait, on va lire une lettre d'Aurélie maintenant. Alors Aurélie, c'est aussi une correspondante régulière de l'envolée. Elle fait une très longue peine et actuellement elle est au centre pénitentiaire de Rennes, au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes, qui est un peu la grosse prison pour grosses peines femmes en France. Voilà, elle nous écrit régulièrement sur ce qui se passe et là elle nous écrit au sujet des activités proposées par le SMPR de Rennes. Donc je précise et j'en reparlerai un peu mieux après, le SMPR c'est Service médico-psychologique régional. Et voilà, il intervient particulièrement à Rennes auprès des prisonniers et des prisonnières pour des soins. Des soins de psy de diverses manières. Voilà, on écoute la lettre d'Aurélie.
Lettre d'Aurélie du 19 juin 2026 depuis le CP de Rennes. Bonjour à toutes, l'équipe de l'Envolée. J'espère que vous allez bien malgré cette chaleur. Une fois de plus, un coup de gueule à pousser. Les joies de la détention. En espérant que ce courrier vous arrive. On ne sait jamais, des courriers à égarer, ça arrive. Peut-être que si je travaille à la poste, lol. Ça risque d'être un peu long. Chaque année, depuis 5 ans, le SMPR de Rennes, chez les femmes, ils organisent une fois par an une randonnée. Avec le contexte actuel des permissions de sortie, depuis des évasions, les sorties collectives sont désormais possibles avec la présence du personnel pénitentiaire. Le SMPR, lui, dépend de l'hôpital Guillaume Régnier. Le but n'était donc pas d'organiser cette sortie avec des membres de la détention, le personnel pénitentiaire. Le SMPR avait exposé son projet à la JAP, juge d'application des peines, ainsi qu'à la détention, en précisant que si le personnel de la détention était présent, le SMPR refuserait de sortir. La JAP a accepté que moi et d'autres détenus aient cette autorisation de permission. Quelle joie, car pour moi, ça aurait été l'occasion d'une première permission. Le SMPR nous avait prévenu que s'il y avait le personnel de détention, ce serait refus de sortie. Logique. L'espoir a quand même été là. La sortie permission était prévue mercredi 17 juin 2026 à 8h. Et surprise, à 8h45, permission annulée, car présence obligatoire du personnel. Voilà. En détention, le soin est distinct de la détention, justement. La journée devait avoir lieu au bord de la mer, avec une randonnée de prévue et un petit arrêt détente. Non, c'était pas une journée plage, mais randonnée et surtout avec un moment détente. Je précise parce que, on va dire, les détenus sortent une journée à la plage. Voilà. La JAP, en acceptant la permission, connaissait les souhaits du SMPR. La détention est visiblement passée outre la décision. C'est la vie. Un combat de plus à mener, car après moi, il y aura d'autres détenus. Le carcéral, peu importe le coin de la France, se durcit énormément. La détention est, je pense, pieds et poings liés avec sa hiérarchie et applique les directives. Le SMPR, un gradé, donc deux personnes, ont pris du temps, beaucoup, mercredi, pour m'écouter, échanger, expliquer les choses. On va dire que c'est plutôt positif, même si c'est censé être logique. Les choses, je pense, n'en resteront pas là. La suite au prochain épisode. Merci l'Envolée, bonnes vacances d'été, force et courage à toutes et tous, Aurélie.
Voilà, merci Aurélie pour cette lettre. Moi, je voulais rappeler un peu le contexte de cette lettre. Donc, ça vous a sûrement pas échappé. Oui, comme le dit Aurélie, les détentions se durcissent. La prison, ça se durcit vraiment ces dernières années. C'est un processus au long cours, mais là, qui est en train de bien partir en vrille. Et avec une pression un peu de partout, c'est-à-dire du côté des surveillants et surtout des syndicats de surveillants, ça se durcit, ils sont de plus en plus revendicatifs et ils ont obtenu de plus en plus de revendications. Et leurs revendications, c'est toujours plus de sécurité au détriment des prisonniers et des prisonnières, ça c'est clair. Et par ailleurs, il y a une hiérarchie d'en haut qui, dans des élans un peu électoraux, populistes et fascisants, portent une idéologie qu'ils appliquent, qui est vraiment de durcir la vie des prisonniers et prisonnières. Ça s'est manifesté notamment par toutes les histoires un peu où on nous fait croire que les prisonniers sont au Club Med. Alors évidemment, va passer 2 semaines dans une prison, raconte-moi après si c'était le Club Med. Et notamment sur le fait que la moindre activité qui leur change un tout petit peu le cadre serait... Ce serait vraiment le Club Med, quoi. Donc tout ça qui est vraiment du balnaf, parce qu'en fait la prison c'est dur, et même si t'as une pauvre activité de temps en temps, la prison ça reste super dur. Ça fait que depuis quelques années, les maigres activités qui pouvaient exister ont été menacées, voire abandonnées ou interdites. On l'a vu avec les circulaires à Darmanin qui étaient scandalisés parce que des prisonniers pouvaient avoir des massages ou des ateliers bien-être, etc. Il ne faut pas rêver, hein, ils ne se font pas masser tous les jours en mode on te masse un massage à 100 balles que tu n'aurais même pas le droit dehors. Ce n'est pas du tout ça le délire. Le moindre truc est prétexte pour faire un buzz médiatique populiste, faire croire que les prisonniers et prisonnières, cela coule douce à qui voudrait bien l'entendre, parce qu'il ne faut vraiment pas connaître la prison pour croire ça. et supprimer les activités extérieures, supprimer les activités intérieures avec quelques personnes qui ont pu se faire la belle à un moment lors d'une permission de sortie et hop, toutes les permissions de sortie pour activité vont être remises en question en France, etc. Donc heureusement, ça s'est un tout petit peu réassoupli, mais pas tant que ça. Et on peut dire que le SMPR de Rennes, donc ce service médico-psychologique régional, ils ont l'air quand même de tenir à un truc important qui est d'emmener les prisonnières en sortie une fois par an dans une démarche de soins, dans une démarche thérapeutique. Et on a trouvé, comme par hasard sur Internet, un communiqué du syndicat FO de Rennes, donc qui est éloquent, qui en fait est très très, c'était un tract qui date d'il y a un an. Ils sont très très mécontents que le SMPR ose soigner des prisonniers et prisonnières en remettant en question l'idéologie sécuritaire des surveillants. En gros, les surveillants, eux, ils veulent que de la sécurité, de la sécurité, de la sécurité et mater les prisonniers. Et ils n'acceptent pas que le SMPR de Rennes remette en question certains des délires sécuritaires des surveillants. Ce qui est rare, on en parle régulièrement dans cette émission. Trop souvent, les services de soins en prison prennent les patins de l'idéologie sécuritaire au détriment de la santé des prisonniers. Et bien là, ce SMPR de Rennes, ils ont l'air un petit peu de tenir leur cap. Et par exemple, donc comme le dit Aurélie, ils ont dit non, si on fait ces sorties, c'est sans les surveillants. Et ben en fait, les surveillants se sont imposés, donc la sortie a été annulée. C'est quand même un truc de fou. Et tous ces rapports de force face à ces surveillants et à cette logique sécuritaire qui se durcit, tous ces rapports de force, c'est important de les tenir. Donc voilà, on espère qu'on est bien dégoûté pour les prisonnières qui ont vu cette sortie annulée, parce qu'on sait que c'est pas du luxe, c'est vraiment pas du luxe, et on espère que le rapport de force petit à petit va s'inverser. Voilà, en tout cas, merci à toi Aurélie pour cette lettre, et force et courage à toi, et à bientôt.
Lève la main pour tous les frères qui galèrent, lève la main, c'est comme lutter du terre-terre. Lève la main pour tous les frères qui galèrent. Lève la main, c'est comme t'es du terre-terre.
Plus de chance de béton que de gagner au Keno. Les grands jouent les Tony, les petits c'est Pequeno. Dans le ghetto, Big Mac et Rot dans un Clio. Les schlacks se fracassent pour abattre un client. Tu peux te faire abattre, pas un cum rabat. Tout peut arriver quand le prix de la vie est à débat. L'heure est grave, la population dans le goût. Les départs sont capes, tu pires pour un gramme de genou. Starbeat, c'est pas un film, c'est la réalité. Celle où le juge t'achève à coup de fatalité. Y'a rien d'idyllique quand le passé tue à la trace. Coma idyllique à force de boire la tasse. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La base c'est un taudis. Ils nous mettent à l'écart comme si on était maudits. La poisse nous pourchasse au volant de sa Audi. Plus on part en couille et plus j'ai t'en applaudi.
C'est la guerre, guerre, on va niquer des mères. Lève la roue arrière et fais péter le ZZR. Pour mes garçons qui représentent comme le frère de Vince. Pour le Vince, s'envoie les couilles de ta justice. Pour les familles nombreuses, les braqueurs, les braqueuses, dileuses, passeuses, ceux qui montent, ceux qui osent. La passion des Miradors, Emirat Tudor. La relève des quartiers nord, Miracou d'or.
J'les entends tous ces baltringues rapper et se prendre pour des dingues. D'où l'on vient, on fait trembler le flingue. 7-5-0-1-8.
Je crains, j'pose la mesure pour les vrais, ceux qui bossent, qui assurent. Les briques à source mature qui roulent à fond, on voiture. Ce soir, y'a pas fure. Sur un bleu, j'crache la vraie, la pure, la dure. Oui, j'ai des TI, les ventreurs, fournisseurs à la street. Explosif comme une balle dans la tête d'un schmitt. Boum, j'explose la cervelle comme dans un cartoon. Je vois le ouf, j'ai peur, pire qu'un genou. Il suffit d'un clic pour que la balle quitte sa douille. Tu testes et ça se termine, oh la ta 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 douille. Qui t'a dit de nous, teste vous, tiens pas les deux bouts. Voilà, qui finit à genoux. C'est la guerre, guerre, on va niquer des mères. Lève la roue arrière et fais péter le ZZR. Pour mes garçons qui représentent comme le frère de Vince. Quand le Vince s'envoie les couilles de ta justice. Pour les familles nombreuses, les braqueurs, les braqueuses, dileuses,
passeuses. Ceux qui montent, ceux qui osent. La face sont des miradors, Emirat Tudor. Ça relève des quartiers nord, Miracouta.
Pour se requinquer, on court tous après le gain. À nos trousses, y'a les poulets, t'es une armée de requins. La thune, comme la tisse, ça fait tourner le crâne. Hier, tu parlais en gras, maintenant, tu parles d'Espagne. C'est tout pour tout, ça craft, puis même la levure. Pour aller de l'avant, combien sont prêts à foncer dans le mur? Combien sont prêts à pioncer au ballon, à commettre l'illégal pour pas finir en dallon?
Putain, que des Pascal, que de francs Africa. C'est autant d'arabes en ville le soir que de chicha. Tes ennemis sont nos amis, c'était une pute comme Tati. Tu ne suceras la bite si on passe en Maserati. Garde ta tendance, je suis pas ta direction. Je pointe le million, pardon, j'ai pas de patron. Général comme Taher, avec la gueule d'un colon. Je fume tous les colons, crache dans tous les colons.
C'est la guerre. Yeah, on va niquer des mères. Lève la roue arrière et fais péter le ZZR. Pour mes cassos qui représentent comme le frère de Vince. Quand le fils s'envoie les couilles de ta justice. Pour les familles nombreuses, les braqueurs, les braqueuses. Dileuses, passeuses, ceux qui montent, ceux qui osent. La face sont des miradors, Emirat Tudor. La relève des quartiers nord, Miracouta.
Lève la main pour tous les frères qui galèrent. Lève la main, c'est comme le dé du dernier. Lève la main pour tous les frères qui galèrent. Lève la main, c'est comme t'es du terre.
Salut à tous et tous, vous êtes toujours à l'écoute de l'Envolée sur Fréquence Paris Pluriel, sur l'une des radios qui nous diffuse partout en France, ou en direct ou en podcast, sur le site de l'Envolée, l'envolée.net. On donne pas le direct de l'émission puisqu'elle est enregistrée, mais vous pouvez quand même nous écrire à l'adresse postale de l'Envolée, FPP 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Nous laisser un message sur notre répondeur téléphonique, un SMS ou un message sur les applis de messagerie sécurisée, ça va être le même numéro, pardon, le 07 53 10 31 95. Et je finis par rappeler notre mail contact@l'envolée et notre Insta l'envolée-journal. Donc pour reprendre, et après le son qu'on vient d'entendre qui datait des années 2010 et de la goutte d'or, on descend un peu plus au nord-ouest et on revient en 2026 puisqu'il y a 10 jours, on était au prochain Richie Thibault qui était convoqué porte de Clichy, qui était convoqué au tribunal porte de Clichy pour répondre de plusieurs infractions liées à des prises de position, essentiellement sur les réseaux sociaux, dont une accusation d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Rien que ça. Et pour cause. Par côté parti civil, on pouvait retrouver le ministre de l'Intérieur et ancien préfet de police Laurent Nunez et les députés fachos du RN. Le ministre n'était pas là et seulement un député de l'autre côté. La salle d'audience du 4e étage était blindée et bien climatisée, ça faisait du bien vu la canicule à l'extérieur. Et c'était essentiellement des militants et des militantes qui avaient pris l'habitude de suivre des procès qui opposent l'État, ses services et son ministère de l'Intérieur à des militants politiques, notamment autour de la question de la répression du soutien, autour de la répression du soutien au peuple palestinien, des quelques discussions qu'on a pu avoir pendant les suspensions d'audience. La cour arrive et la juge annonce d'emblée la couleur, non sans quelques mimiques agacées devant la défense qui voulait prendre la parole alors qu'elle n'avait fait appeler Richie Thibault à comparaître que pour énoncer les motifs de la poursuite. Juste après, elle demande direct le renvoi de l'audience pour un procès sur 2 jours. Devant les clameurs à la barre et dans la salle, la juge, toujours bien vénère, détaille les motifs, trop de témoins, une 20aine annoncée, 16 présents dans la salle. C'est pas possible de tenir l'audience sur une journée. Après avoir recueilli l'avis des parties civiles, ravi d'appuyer le renvoi, et celui du procureur, ravi lui aussi de placer une courte plaidoirie bien narquoise, la parole revient à la défense. Richie Thibault s'avance. La juge, toujours excédée, lui signifie que c'est d'abord à son avocat de parler. L'avocat prend alors le temps d'expliquer ce que signifie le renvoi concrètement. Un procès déjà renvoyé une première fois. Un procès qui est aussi préparé depuis 1 an. Des frais importants engagés dans la préparation, dans le transport, dans le logement de témoins qui ne viennent pas tous de région parisienne et qui, pour certains et certaines, ont dû poser des jours de congé. Il rappelle que le procès a été aussi préparé longuement avec le témoin, que la cour connaissait depuis plusieurs semaines le nombre et la liste des témoins présentés, qui seraient présentés. Il y avait déjà eu des contacts entre le service du tribunal et la défense et qu'à aucun moment on avait signalé le moindre problème. C'est donc enfin au tour de Richie Thibault de prendre la parole. Il appuie son avocat sur l'impact du renvoi et sur la portée qu'il voulait donner à ce procès, avec d'un côté la mascarade politique qui était orchestrée contre lui et de l'autre une répression systémique contre la communauté des gens du voyage dont il fait partie. Ensuite, il a surtout tenu à souligner une irrégularité, celle qui a empêché un détenu, Mika, qui écrit d'ailleurs et qui communique souvent à l'envolée et à qui on adresse au passage un gros big up, de témoigner à ce procès. Il explique que la demande avait été faite en amont, à tel point que l'administration pénitentiaire avait accepté de mobiliser des agents et une salle pour la visioconférence afin qu'il puisse témoigner. Là-dessus, le ton est vite monté, la juge y a vu une attaque et ça s'est terminé par la suspension d'audience. Le greffier n'avait même pas eu le temps d'annoncer que la cour se retirait, que la juge, toujours plus excédée, était déjà partie. Je disais un peu avant qu'il y avait une chose pour laquelle Richie attendait beaucoup cette audience, c'est qu'au travers de ce procès, qu'il qualifiait lui-même de politique, l'idée était de parler aussi d'une pratique systémique de l'institution judiciaire, celle de la répression des gens du voyage, le harcèlement et la manière dont la justice broie les vies, et en particulier des tziganes et des manouches. Donc pour ça, on va écouter un extrait de l'émission du 6 juin avec Richie, Zéro et Inès de l'Envolée qui aborde ce qu'il appelle la résistance voyageuse et qui nous permet de mieux comprendre ce procès à la justice française qu'il était bien déterminé à tenir lors de l'audience.
Et je pense que pour cerner tout ça, il faut passer dès l'étape de la dite justice, de l'institution judiciaire et des tribunaux. Parce qu'en réalité, dès que vous allez dans une audience, bon, il n'y a pas beaucoup à Paris, mais la majorité sont en province, comme disent les Parisiens. Enfin, quand vous allez dans les campagnes, vous allez dans le tribunal d'une préfecture ou d'une sous-préfecture. Et là, vous allez halluciner parce que ce n'est pas du tout le même traitement. Mmh. Dès le début de l'audience, on précise qu'il s'agit d'une famille de gens du voyage, alors que c'est vraiment absurde, parce que quand on dit une famille de gens du voyage, c'est des gens qui, pour beaucoup d'entre eux, sont des autochtones, qui sont là avant même que ce pays s'appelle la France. Donc vous voyez, ça n'a vraiment aucun sens, mais on spécifie. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il s'agit de prononcer les peines? On a de manière systématique, vraiment quasiment systématique, et dès le plus jeune âge, des peines de prison ferme qui sont prononcées. Pourquoi ? Parce que les magistrats, que ce soit d'un côté ou de l'autre du tribunal, j'aime pas faire de distinction parce que pour moi c'est les mêmes pourritures, que ce soit
d'accord.
Ceux du parquet ou ceux de la magistrature, dans son ensemble. Et donc, ils disent que, en fait, comme les voyageurs ne sont pas fixes, n'ont pas d'adresse, soit vivent en caravane, parce que dans les faits, la plupart des gens ont des titres de propriété. Possèdent des terrains, mais vivent dans des campines, comme on dit chez nous, c'est un endonyme pour désigner la caravane, et comme ils vivent dans des campines, ou parfois même s'ils ont une maison, mais qu'il y a une campine sur leur terrain, ils vont dire, ah ben ouais, mais c'est pas un habitat comme les autres, et donc c'est pas possible pour nous de prévoir une peine alternative à l'enfermement et à la prison, et donc on vous envoie en prison. Et c'est pareil, comme tu le soulignais, donc y a pas, les aménagements sont beaucoup plus compliqués, les demandes de permission sont refusées de manière systématique, d'une part parce qu'on considère qu'il y a un plus fort risque d'évasion, mais aussi parce qu'il y a cette fameuse dangerosité plus élevée et que donc ça peut partir en vrille s'il y a une escorte, par exemple, pour des obsèques. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a fait ce constat de discrimination spécifique et de difficultés spécifiques contre les voyageurs, on constate très facilement que il y a aussi énormément de résistance et de combativité à l'intérieur du Shtar. L'exemple de Kémy le montre bien, mais on peut penser aussi à l'exemple de Romain Leroy, et c'est un exemple que vous avez beaucoup suivi pour les camarades de l'Envolée. Mais il y a beaucoup de voyageurs comme ça qui sont rentrés dans l'art de l'administration pénitentiaire et qui ont mené des combats vraiment très braves, des mutineries notamment collectives. Il y a toute une histoire à écrire et c'est un truc sur lequel j'aimerais bien travailler, mais c'est des résistances qui vont au-delà des barreaux des prisons et qui vont aussi, qui concernent aussi les familles à l'extérieur. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment des spécificités voyageuses, si je peux le dire ainsi. Et ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que quand les juges d'application des peines, les JAP qui portent bien leur nom, refusent d'accorder une permission, et c'est le minimum de dignité pourtant, pour qu'un détenu aille assister à l'enterrement de son père, de son frère, de ses proches, eh bien ça donne lieu à des mouvements d'action directe très radicaux. Moi, ça a été le cas dans ma famille au début du mois de janvier. Enfin, je crois que c'était le 1er janvier. J'ai mon pauvre grand-père qui est mort, qui en plus était vraiment pas si vieux que ça. Et donc, on a fait une demande, on l'a envoyé hyper rapidement pour que mon père puisse sortir pour une permission. Et on l'a dit, y compris s'il faut qu'il ait une escorte, on s'en fout. Nous, on veut juste qu'il sorte pour assister. C'est le minimum de dignité qu'on puisse attendre à l'enterrement de son père, de mon grand-père. Et au dernier moment, le vendredi soir, alors que l'enterrement est lundi matin, sans laisser le temps à mon père ni à nous de faire un quelconque appel, ce qui est quand même vraiment du foutage de gueule, elle décide de lui refuser d'accorder la permission. Et donc là, aussitôt, avec mes cousins, mais aussi mes petites cousines, on décide de bloquer la départementale, qui est la départementale la plus fréquentée entre deux sous-préfectures, celle de la Dordogne, donc Bergerac, et celle de la Gironde, donc Libourne. Et donc ça crée de grosses perturbations. Et donc là, on a très vite, une quarantaine de gendarmes qui arrivent, de mobiliser de tout le département, les capitaines de gendarmerie qui font le déplacement. Et nous, on leur dit, enfin, je leur dis très, très texto, droit dans les yeux, nous, on partira pas d'ici tant qu'on n'obtient pas la libération. Parce que c'est le procédé d'action qu'on a toujours mené pour obtenir gain de cause, à savoir le respect de notre dignité avec les voyageurs. Et ça date pas d'hier, ça fait des décennies que les voyageurs utilisent ce répertoire d'action pour qu'on défende notre dignité. Et donc là, je leur dis, passez-moi les magistrats au téléphone. Et donc, il me passe deux magistrats différents au téléphone, Bergerac puis Périgueux. Et là, ils me disent « Oui, mais vous comprenez, donc du gros foutage de gueule, nous, on ne peut rien faire. C'est la juge d'application des peines qui doit revenir sur sa décision. Or, nous sommes en plein week-end. C'était le vendredi soir. Elle a donné sa décision. C'est elle qui a donné sa décision le vendredi soir. Et donc, il n'y a aucune possibilité de revenir dessus. Par contre, on a obtenu son engagement pour que lundi matin à 8h, elle revienne sur sa décision et que votre père puisse assister sous escorte à l'enterrement. Bon, et moi, crédule que je suis, parce que je suis encore assez jeune, on les a crus et donc on a levé le blocage. Mais bon, on s'est bien fait avoir parce que lundi matin, au cimetière, mon père n'était pas là, il n'a pas pu assister à l'enterrement du sien. Donc ça, c'est très violent, mais des fois, nous, dans notre cas, on n'a pas obtenu gain de cause, mais les voyageurs, ça arrive qu'ils l'obtiennent. Je peux vous raconter une histoire en ce sens. C'était à Moiron, en 2015, il y avait des petits voyageurs qui avaient été faire un chore, donc qui a été fait chiner, et ils ont eu un accident très jeune de voiture. C'était la famille Van der Steen, une grande famille de Montnouche, et donc la famille a demandé à ce que le frère puisse sortir de prison pour aller à l'enterrement de son petit frère. Et là, l'administration pénitentiaire a mis son veto et donc la juge a refusé. Et donc là, pendant, il y a eu une émeute spectaculaire des voyageurs qui ont mis des voitures en feu sur les voies de chemin de fer de la gare. Elles ont obtenu, si je dis pas de bêtises, à vérifier, mais l'obtention de sortie pour que le voyageur puisse assister à l'enterrement de son pauvre frère. Donc voilà, c'est un répertoire d'action qui fonctionne, qui permet d'obtenir des victoires très concrètes pour défendre notre dignité. Mais c'est aussi une réalité historique, notamment la pratique de l'évasion. On pourrait, c'est aussi une autre modalité que prennent ces résistances voyageuses. Il y a Lise Foineau, qui est notre camarade, qui a fait un très bel article sur lundi matin à ce sujet, qui s'appelle « Résistance voyageuse ». C'est l'évasion, je le disais. Et ce qui est très marrant, c'est que là aussi, c'est une réalité transgénérationnelle. Pour vous raconter une petite histoire, il y a une femme qui s'appelle Angèle Sigler. Donc j'ai pris la citation exacte pour ne pas me tromper, parce que qui est vraiment très forte, qui était enfermée dans le camp de Choisiel pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était un camp de concentration dans lequel il y avait plusieurs populations, des résistants, mais aussi des personnes catégorisées comme nomades en Loire-Atlantique. Et à un moment donné, c'est les surveillants du camp qui étaient des gardiens français refusent de donner quelque chose à boire ou à manger pour son nourrisson, pour son petit bébé. Elle a 20 ans, Gilles Siglière, à l'époque. Et elle leur répond « Vous avez le sang pourri, tas de vaches, nous ferons une révolution dans le camp et je m'en fous d'attraper 10 ans de bagne. » Et donc elle va être déférée au tribunal, condamnée pour ça en plus de son internement. Et ce qui est très intéressant, c'est que il y a quelques mois, l'année dernière, il y a son petit-fils ou son arrière-petit-fils qui, dans le cadre d'une sortie organisée par l'administration pénitentiaire pour les détenus, s'est évadé et a été retrouvé quelques jours ou quelques semaines après. Et donc c'est très beau de voir que c'est aussi des modalités de résistance, d'évasion, de rébellion qui se transmettent de génération en génération. Il n'y a pas que l'enfermement, ouais. On n'a pas que cet héritage-là de persécution, on a aussi un héritage de résistance. Et juste pour dire qu'il y a une phrase, une exclamation plus précisément qui revient dans la bouche de quasiment tous les voyageurs, c'est « on n'est pas des chiens ». Et les voyageurs montrent ça par les actes. C'est-à-dire que chez nous, à force de prendre la misère dans la figure, dans la gueule depuis qu'on est tout petit, on a aussi donc appris à se défendre. Et on n'a pas trash, ça veut dire peur, donc en manouche et en romanesque, de la police et des institutions. Et c'est vrai que c'est une grande différence. Moi, quand je suis arrivé en fait, dans le monde de l'engagement politique, militant dans les luttes, quand je suis arrivé à Paris, j'ai grandi dans le sud-ouest, il y a beaucoup de gadgets, de jeunes camarades à moi qui m'ont dit « Mais Richie, pourquoi tu vas au-devant comme ça des CRS et t'as pas peur d'eux ?» Et ils étaient étonnés, ils trouvaient que c'était de la provocation, que c'était puéril ou que c'était stupide. Mais en réalité, je pense qu'on le comprend très bien quand on me situe en tant que voyageur, parce que c'est pas quelque chose de la provocation, c'est quelque chose qui est lors de la confrontation assumée, extrêmement digne. Et moi, je suis très fier d'avoir cet héritage-là. Et ce dont je suis très fier, c'est qu'on m'a appris dès le plus jeune âge à avoir de la gueule, à avoir de la mouille, comme on dit toujours en manouche, et à pas se laisser cracher la figure, et à rendre coup pour coup. Et ça, c'est voilà, une grande fierté.
Oui, peut-être ça, moi, ça me fait écho justement au parcours à l'intérieur de Kémy, et justement au fait qu'il s'est vraiment battu contre l'administration pénitentiaire, notamment au moment où il n'a pas eu la permission de sortie pour aller à l'enterrement de son père, où du coup il a fait une prise d'otage, où il a du coup pris en otage, nous en l'envolé on aime bien ça appeler une prise de parole plutôt, mais il a pris en otage les matons pendant des heures pour pouvoir aller voir son père. Et donc voilà, ça, c'était pour rebondir sur ce que tu disais, qu'en fait c'est des gens, enfin vous êtes des gens qui se laissent pas faire, quoi.
Parmi les 16 présents ce jour-là, dans la salle, il y avait Aurélie, la sœur d'Angelo Garand, un nom que les auditeurs et les auditrices de L'Envolée connaissent bien, puisqu'on avait publié un entretien avec elle dans le journal, et qu'elle est venue plusieurs fois au micro de l'émission. Au moment où l'audience a été levée, Aurélie a immédiatement rejoint la barre, sa convocation à la main, et a pris le micro avant d'être repoussée par les policiers présents, en expliquant qu'elle avait une convocation et qu'elle voulait témoigner, en vain malheureusement. Ce mécanisme de mépris judiciaire, Aurélie Garand le connaît bien, c'est d'ailleurs précisément de ça dont elle venait témoigner. Angelo Garand, son frère, c'est ce voyageur de 37 ans abattu par le GIGN le 30 mars 2017 près de Blois, alors qu'il mangeait chez ses parents. Quelques mois plus tôt, il n'était pas rentré de la maigre permission d'une journée que la prison de Vivonne lui avait accordée pour voir sa famille. Le GIGN débarque, Angelo se cache dans une grange. Il est abattu sans sommation, sans avoir opposé la moindre résistance. Depuis, sa famille et ses proches se battent pour que la vérité soit dite. Angelo a été exécuté par la gendarmerie. Et depuis 2017, Aurélie mène ce combat avec le collectif Vérité et Justice pour Angelo. Le collectif a été l'un des premiers à lier violence policière et violence du système pénitentiaire, notamment avec une journée, l'engagement, l'engrenage carcéral, peut-on en sortir, organisé à Blois. Elle sait aussi de quoi est fait le traitement médiatique et judiciaire réservé aux gens du voyage. Quand Angelo est mort, on a fabriqué la figure, du gitan en cavale avec 19 condamnations, du fou au couteau alors qu'il était juste en train de manger avant d'aller se cacher. On salit les morts pour justifier ce que les flics ont fait et on colle des si aux vivants dans les tribunaux jugés pour des suppositions et en plus pour leur origine. Alors on le redit ici, force à Aurélie, force à la famille d'Angelo et force à toutes les familles de victimes, surtout quand on voit ce qui a été voté récemment à l'Assemblée nationale sur les policiers municipaux et leur armement ou sur le permis de tuer il y a quelques jours. Pour ce qui est du procès, on n'est pas resté jusqu'au bout, mais des humains avec qui nous étions dans la salle nous ont rapporté, quand on les a croisés un peu plus tard dans le métro, qu'après que l'audience ait reprise un court instant pour annoncer la date du report en avril 2027, il y avait eu des violences policières avec une évacuation manu militari du hall du tribunal. Dans cette évacuation, un homme âgé a été bousculé et s'est retrouvé projeté au sol. Aurélie aussi a été bousculé et blessé, donc on adresse toute notre force à Aurélie et au monsieur blessé.
Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Kémy. Je suis détenue à la centrale de Moulins-Isère et j'ai été citée à témoigner au procès de Richie Thibault. Mais comme à son habitude, la soi-disant justice a tapé fort pour essayer de me censurer. Et oui, on m'empêche de témoigner car je suis voyageur, longue peine. Et en plus, je suis revendicard. Je prends la parole pour dénoncer le racisme, la répression abusive et la censure dont nous, personnes racisées, faisons l'objet dans ce pays. J'étais censée témoigner en visio, mais la centrale de Moulins-Isère est soi-disant dans l'incapacité de le faire. Aujourd'hui, ils vont juger un homme pour ses opinions politiques et parce qu'il a osé défier ce que vous appelez l'État français. Et quand Macron dit qu'il emmerde les Français, rien ne se passe. Quand il apporte son aide à Israël pour bombarder Gaza, rien ne se passe. Par contre, vous sortez toute l'artillerie judiciaire pour juger des hommes, des femmes ou des ados, parce que voyageurs, noirs ou arabes. En 2026, quand on arrive dans une commune, on peut encore malheureusement lire des affiches avec écrit dessus « Interdit aux gens du voyage ». C'est du racisme pur et simple. Combien de jeunes arabes sont abattus par la police ? Combien de jeunes voyageurs sont abattus par la police? Et combien de noirs également sont abattus par la police sans que justice soit rendue? Beaucoup trop. Combien de femmes et d'enfants sont assassinés et violés sans que la justice ne soit rendue également? Combien de personnes racisées sont enfermées pour de longues années? Beaucoup trop. Et aujourd'hui, vous gaspillez l'argent des Français pour juger un homme qui ne fait que dire ce qui ne va pas dans ce pays. Aujourd'hui, c'est du théâtre politico-judiciaire ce que vous faites. Mais nous, on dit stop. Stop à cette mascarade. Stop au racisme et stop à l'immunité accordée aux politiciens. Et à leurs bras armés qui assassinent nos mères, nos pères, nos frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui pratique la dictature dissimulée. Ceux qui gouvernent font tout pour que les personnes racisées soient considérées comme des moins que rien. Nous, voyageurs, aujourd'hui, nous levons pour dénoncer ce que nous subissons tous les jours. Nous sommes des êtres humains, mais l'État macroniste nous considère comme du bétail à parquer à côté des déchetteries. Réveillons-nous, levons le poing et envahissons les rues pour crier notre mécontentement et faire chuter ce gouvernement qui ne cherche qu'à faire du chiffre et à remplir ses statistiques méprisantes et truquées. Quand un politicien est condamné à plusieurs années de prison, il n'en fait que quelques mois. Quand une mère de famille à voler, à manger pour faire manger ses enfants. Elle fait sa peine au maximum et doit fermer sa bouche. Aujourd'hui, un flic peut assassiner un ado et devenir millionnaire grâce à des politiciens qui, soit dit en passant, sont des fachos revendiqués. Oui, l'État et la police tuent. Oui, l'État et la police sont racistes. L'État français place l'argent avant l'être humain. En France, on peut tenir des propos choquants, humiliants, envers des personnes racisées. Mais on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense du gouvernement. Le président peut dire qu'il emmerde ses électeurs, mais le simple citoyen n'a pas le droit de dire ce qu'il pense, sous peine d'être assassiné ou enfermé. Je termine en disant, ou plutôt en criant, « Free Palestine, sauvons Gaza, ne laissons aucun politicien corrompu choisir pour nous, dicter notre vie et retirons-leur le permis de tuer. » Moi aussi je te bip, Macron. J'emmerde l'État et tous ses représentants. Encore une fois, la censure, j'ai réussi à la contourner.
Voilà, vous venez d'écouter une lettre de Kémy qui évoquait le procès de Richie Thibault qui a été reporté, dont Gabriel nous a parlé juste auparavant. Et force et courage à toi, Kémy. Bah oui, comme tu le dis, ce qui est important, c'est très important de contourner la censure. Et on sait que c'est une prise de risque d'ouvrir la bouche quand on est en prison ou quand on est une personne dominée dans ce système. Et donc, il est important qu'on soit tous et toutes solidaires de ces prises de parole qui sont en plus, chez Kémy, souvent des prises de parole politiques vraiment très intéressantes et qui nous parlent carrément. On va enchaîner direct avec d'autres prises de parole importantes. Notre ami Pierrot va nous donner quelques nouvelles de ce qui se passe dans les QLCO, les quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Ensuite, on écoutera un peu de musique et on enchaînera, comme je vous l'ai dit en début d'émission, avec un enregistrement qui a été fait il y a quelques mois par les copines de l'émission au sujet de l'enfermement psychiatrique. C'est un enregistrement qu'on n'avait pas encore eu le temps de vous passer. Voilà, bonne écoute.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un petit mot pour revenir sur Condé-sur-Sarthe, évidemment, le QLCO, ce qui s'y passe et les réactions de l'administration pénitentiaire. La semaine dernière, dans l'émission, on évoquait à la fois le rapport et les conclusions de la visite de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté qui était passée en mai et qui avait rendu donc son rapport en urgence, fait rarissime, en 2 mois et demi peut-être, avec injonction à l'action de la part des pouvoirs publics, comme on dit, de la part du ministère de la Justice et de la part de l'administration pénitentiaire, en dénonçant une violence systémique. Un terme, rappelons quand même que le terme de violence systémique est un terme qui a été reproché, dont l'usage a été reproché aux auteurs, autrices et au comité de rédaction de l'Envolée, il y a quelques années de ça, pour dénoncer les violences qui avaient lieu à la prison de Saint-Martin-de-Ré à la fin des années 2010 et qui avaient conduit à la mort de Sambali Diabaté. Il se trouve que lors du procès des surveillants qui avaient validé le fait que ces surveillants avaient bel et bien tué Sambali Diabaté, le terme de violence systémique avait été utilisé pour justifier quasiment et expliquer en positif par les avocats de la défense le fait que les surveillants s'étaient livrés à des actes donc absolument barbares et d'étouffement qui avaient conduit en appliquant des pratiques qui étaient souvent répandues, bien qu'interdites. C'est en cela que ces violences étaient systémiques, c'est-à-dire qu'elles faisaient partie du système de gestion de la détention à l'époque. Et bien là, la contrôleuse des lieux de privation de liberté a établi que c'était la même chose à Condé-sur-Sarthe, voire pire qu'ailleurs, puisque ces violences sont appliquées à peu près à tous les prisonniers, et qu'elle considère qu'une bonne partie du personnel pénitentiaire s'y adonne, et que révèle dans son rapport des choses qui ont été écrites et publiées dans l'Envolée et dites à cette antenne régulièrement, un certain nombre de pratiques qui relèvent de l'expérimentation quasiment de la torture, et du laboratoire, en fait, où des surveillants se refilent des méthodes entre eux, testent des choses, puisqu'ils les pratiquent les uns et les autres, quand bien même elles ne correspondent à aucune autorisation légale, ou elles ne correspondent pas à des choses qui seraient dans les manuels, en fait. Ils constituent leur propre manuel de gestion de la détention, en ayant à peu près les mains libres à Condé. C'est ça la situation que déplore et qu'établit ce rapport. Là-dessus, on le disait la semaine dernière, les surveillants n'ont pas été du tout contents de la publication de ce rapport, des mots qui sont utilisés dans le rapport, et de la publicité qui a été faite autour de ces informations. En effet, la plupart des surveillants de Condé-sur-Sarthe sont dans le QLCO, au quartier de lutte contre la criminalité organisée, sont des gens qui ont choisi d'aller là-bas, sur la base du volontariat. Ils ont été dans cette prison, vendus par Gérald Darmanin à l'opinion publique, comme le lieu de gestion le plus dur de toutes les détentions de France, pour briser celles et ceux qu'ils désignent comme, qu'ils désignent comme les narcotrafiquants du haut du spectre, comme on dit. Alors, on a aussi souvent dit à cette antenne que ces mots n'avaient aucun sens, que le haut du spectre, on ne sait pas ce que c'est, qu'aucune liste et qu'aucun critère clair n'a été établi et n'a justifié qui partait là-bas et pourquoi, admettons. Toujours est-il que les surveillants qui, eux, sont partis là-bas parce que là-bas, ils portent des cagoules. C'est pas l'inverse. Ils sont partis là-bas parce que on leur a dit « on va faire les conditions de vie les plus dures qui soient en dehors des quartiers d'isolement et pour lesquels on ne sera pas emmerdé et pour lesquels on n'aura pas à se justifier au tribunal administratif, comme c'est le cas depuis des années avec des pratiques qui sont déplorées dans les quartiers d'isolement. » Puisque depuis des années, des prisonniers font des recours et parfois obtiennent des choses. Alors des années plus tard, mais reconnaissant que les quartiers d'isolement sont une torture blanche. Le QLCO est un contournement de ça. Les surveillants qui y vont le savent. Ils y vont pour ça aussi. Ils y vont parce que ils vont pouvoir faire, ou ils espèrent pouvoir faire, ce qu'ils veulent. Et là, patatras, tout s'effondre d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, tout s'effondre. Les choses se compliquent. Les choses se sont compliquées déjà un petit peu avant ce rapport. Puisque les surveillants ont fait face à un mouvement social qui a duré entre 15 jours et 3 semaines dans le QLCO, où les prisonniers se sont organisés, ont trouvé le moyen de refuser un certain nombre de cantines, refuser les frigidaires, refuser de payer les télés, refuser certains mouvements. Ils ont posé un ensemble de revendications que la direction a dû prendre en compte. Ça, c'est la première chose. C'est la première chose qui a commencé véritablement à emmerder le personnel pénitentiaire à cet endroit-là. En disant comment ça se fait qu'on lâche des choses, en fait. Mais la direction, elle a lâché des choses parce que les conditions sont suffisamment inhumaines. Il voulait éviter que sa prison pète complètement. Donc il a dit « Ok, il a lâché certaines choses. » Et attention, il a lâché certaines choses qui sont des choses dont on a parlé aussi, qui sont dures quand on y pense. C'est-à-dire que les familles peuvent avoir des visios à la place de ces parloirs inhumains en plexiglas. Que certains horaires soient fixes et plus changeants en permanence. Que certaines cantines soient possibles de manière plus facile, etc. Dans différents domaines. Bref, ces choses-là ont été un petit peu lâchées. Alors, combien de temps elles vont être lâchées? Combien de temps elles vont tenir? On ne sait pas à ce moment-là, mais en tout cas, en mai, c'est l'ambiance. Les prisonniers ont un petit peu gagné des choses, malgré l'écrasement et la torture qu'ils subissent. Ensuite, il y a ce rapport qui arrive. Il y a cette visite d'abord qui arrive. Ça, ils n'aiment pas du tout. On vient jeter un œil sur leur travail quotidien. Et puis enfin, cette visite donne lieu à un rapport. Et ce rapport est accablant, comme on l'a dit. Et enfin, sur la base de ce rapport, un référé liberté est déposé en urgence, qui est jugé, donc déposé par deux avocats de l'OIP, l'Observatoire international des prisons, qui en urgence saisit le tribunal administratif de Caen sur la base des conclusions du rapport de la CGLPL pour que l'administration pénitentiaire tire des conclusions immédiates et protège les prisonniers face aux pratiques des surveillants. Et le tribunal de Caen, donc on pourra revenir peut-être plus tard en détail sur cette requête parce qu'elle est vraiment très intéressante et il faudra la détailler vraiment parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dedans et qui sont très utiles pour la suite aussi. Mais en tout cas, le tribunal administratif de Caen valide le 18 juillet l'intégralité de ce qui est établi par les avocats sur la base aussi à la fois des témoignages préalables qu'il y avait de nombreux prisonniers, dont on s'est fait l'écho à cette antenne, et ce qui est contenu dans le rapport du CGLPL. En insistant principalement sur les fouilles humiliantes, avec des techniques d'humiliation extrêmement poussées, qui s'apparentent véritablement à de la torture, l'usage des cantines comme outil de gestion en permanence du quotidien pour réussir en fait à obtenir, à casser les prisonniers, à obtenir ce qu'ils veulent des prisonniers. Et enfin, des propos qu'on avait déjà dénoncés à cette antenne aussi, qualifiés de suprémacistes, c'est-à-dire racistes, qui font l'apologie du nazisme. Et ça, c'est validé par le juge administratif, qui enjoint son ministre, Gérald Darmanin, qui lui-même a créé ses prisons, de faire quelque chose, quoi. Et de faire cesser immédiatement les pratiques humiliantes et racistes et nazies de ces personnels. Donc, ils sont pas contents. C'est pour ça qu'ils sont pas contents, évidemment. Et le ministère non plus n'est pas content. Alors, Gérald Darmanin fera, comme d'habitude, un certain nombre de déclarations bidons. Il continuera à soutenir ses personnels, mais il est obligé de dire qu'il diligente une enquête interne cet été. C'est pour éteindre le feu, c'est ridicule. Et ça ne suffira évidemment pas à éteindre le feu, parce que cette succession de petites bagarres et de petites batailles, tant sur le plan de l'action directe des prisonniers lors du mouvement qu'ils ont mené, que du suivi judiciaire, que du soutien par l'OIP et le CGLPL, constituent en fait des petites victoires dans une grande bagarre, hein, plus grande évidemment, contre ces lieux de torture. Force, courage et détermination à ceux qui ont mené ces bagarres, sans oublier évidemment, et le dernier mot est pour elle et pour eux, les proches qui ont ajouté aussi leur pierre dans cette large bagarre en publiant un texte commun. On a relayé sur le site de l'Envolée, qui fait preuve d'une grande solidarité ensemble et qui donne de la force pour la suite et qui prouve que les familles aussi ne se laissent pas écraser, ne se laissent pas diviser et enfoncer pour le moment. Et ça aussi, ça fait sans doute un petit peu mal aux cagoulés, eux qui tous les jours jouissent de leur petit pouvoir lorsqu'ils refusent des parloirs ou quand ils demandent à un gamin de 2 ans d'être palpé avant d'aller devant un hygiophone. Donc la suite au prochain épisode. Ciao à toutes, ciao à tous.
Et ben du coup, cette capsule fait suite à l'émission Antipsy qu'on enregistre le 27 mai et qui est diffusée vendredi 29 mai. Émission avec Azé, militante Antipsy, qui vient du coup de nous expliquer en fait un peu décrire en fait les lieux d'enfermement psy et en fait leur contrôle à la fois sur les individus dans les lieux d'enfermement mais aussi en dehors et ce que fabriquent en fait les institutions de contrôle ces institutions médicales en fait sur les individus et du coup on voulait continuer pas de manière très très réjouissante mais du coup sur un peu les perspectives et qu'est-ce qui va se passer par la suite et notamment sur des trucs législatifs qui vont se passer prochainement. et voilà, et les lois un peu qui vont arriver, quoi.
Oui, il y a plusieurs lois en lien avec la psychiatrie, plus ou moins directe. Il y a la loi SURE déjà, même si alors c'est pas, ça concerne pas la psychiatrie directement, mais Darmanin, quand il a annoncé la loi SURE, il a annoncé la création de prisons-hôpitaux. Au final, je crois que ça ne fait pas partie vraiment de la loi, telle qu'elle a été rédigée.
En tout cas, dans l'état actuel où elle en est, mais bon, après, les sénateurs et les députés sont suffisamment horribles pour pouvoir les remettre dedans, quoi. On est à l'abri de rien.
Oui, puis ça peut aussi être une sorte d'effet d'annonce pour un peu tester l'opinion du public et préparer le public à ça.
C'est d'ailleurs souvent comme ça que ça se passe, en fait.
Et d'ailleurs, ils les enlèvent,
mais en fait, deux ans, trois ans plus tard, ils les remettent dans la nouvelle loi. Ouais. Et en fait, c'est leur manière de passer des trucs vraiment très hard et justement de faire un effet d'annonce après de le retirer, mais en fait, après de le remettre soit en soum-soum, soit de manière publique. Mais
oui, et c'est ce qu'il appelle la méthode du cow-boy dont il se vante lui-même, quoi.
Et en vrai, bon, les prisons-hôpitaux, ça existe déjà. On a parlé des UMD lors de la première émission du 20 mars. C'est littéralement des prisons-hôpitaux ou même les structures spéciales pour les structures psy spéciales pour les personnes détenues en prison, comme les UHSA. C'est pareil. Mais là, il y a un risque de généralisation, d'en construire encore plus, enfin une volonté et... Il y avait eu aussi une annonce d'Armanin quand il avait annoncé ça, c'était de dire qu'il voulait faire une expérimentation avec 700 à 800 des détenus les plus dangereux de France. Mais en même temps, la manière dont c'est annoncé, quand il parle de prison-hôpitaux, c'est pour offrir le soin aux détenus dont ils ont besoin. Donc il y a ce truc, en fait, où en fait, on voit bien la manière dont le mot « soin » est mobilisé. À la fois, il va insister sur la dangerosité de ces personnes, mais en même temps, pour faire passer la pilule un petit peu, on va dire oui, c'est parce qu'elles ont besoin de soins et tout ça, mais en même temps, on va bien insister sur le fait que ces personnes sont dangereuses. Du coup, en fait, de quel soin on parle là ? Et le soin, ça va être les pratiques dont on a déjà parlé, ça va être des mises à l'isolement, ça va être de la camisole chimique, ça va être en fait de la neutralisation, de la pacification de personnes qui sont considérées comme dangereuses bien souvent parce qu'en fait elles acceptent pas leur sort en prison aussi, qu'elles subissent des choses horribles, qu'elles sont enfermées depuis des années, enfin donc
et puis la logique c'est de s'en surenfermer toujours plus et en fait aussi là vient une confusion du coup bon en vrai que de toute manière enfin c'est ce qu'on discutait tout à l'heure sur les experts psy, enfin la confusion entre enfermement carcéral et médical, le médical est intimement lié à l'enfermement carcéral et vice versa, mais là c'est même plus prétendre quoi, enfin aussi du coup on sait plus vraiment pourquoi tu seras enfermé parce que du coup t'es considéré comme, enfin parce que tu es dans un hôpital ou t'es dans une prison, enfin et du coup il y a cette espèce de mélange et en fait qui permet simplement d'enfermer plus de gens, et en fait de construire encore des institutions nouvelles. Et voilà, c'est ça que c'est. Et en vrai, c'est un vrai truc de genre là, s'ils l'annoncent, enfin sûrement que c'est des trucs qu'ils ont vraiment, enfin qui planifient de faire. En fait, c'est pas genre comme ça. Ils sont des petits plaisirs. Et du coup, c'est important justement de lutter contre avant que ces genres de trucs passent quoi.
Et puis on voit aussi que c'est pour faire passer, en fait, en tout cas pour annoncer ces dispositifs qui impliquent toujours plus d'enfermement, c'est un peu toujours la même rhétorique, parce que ça a été aussi un truc utilisé pour faire passer la loi narco, ça a été aussi un truc utilisé pour faire passer les QLCO de Vandin et de Condé, c'est toujours cette histoire des... X plus grands, plus dangereux prisonniers, des 100 plus grands dangereux narcotrafiquants, des 100 plus grands... Enfin voilà, c'est toujours la même rhétorique qui fonctionne toujours en agitant les mêmes peurs et toujours en déshumanisant les mêmes personnes. C'est juste que les registres de dangerosité changent de l'un à l'autre. Pour l'un, c'est le narcotrafic. Pour l'autre, c'est la folie. Mais c'est toujours le même registre, le même type d'argument qui fonctionne sur les personnes respectables et les autres.
Et en même temps, l'offre de soins, enfin l'idée derrière de soins, qui permet de faire passer la pilule et de dire, enfin en fait d'enrober ça d'un truc pseudo positif, bienveillant, qui est absolument immonde en fait, parce que derrière c'est des pratiques de torture quoi, et c'est des personnes sur des personnes qui sont déjà complètement déshumanisées par la société quoi. Donc ouais, à surveiller, parce que oui, comme tu dis, je pense que ça va surtout servir à créer toujours plus de lieux d'enfermement, en fait. Même si, de fait, les prisons hôpitaux, ça existe déjà, mais en fait, ça va servir à en créer de plus en plus, quoi. Donc ouais, la loi sûre, avec, au milieu de toutes les saloperies que ça amène, il y a ça, voilà. Sinon en ce moment aussi il y a la loi Rodwell, je crois, qui est passée et qui a été adoptée à l'Assemblée. Alors c'est une loi qui a pour visée de lutter contre le terrorisme. J'en parlais tout à l'heure quand je parlais d'OpsiWeb. La loi Rodwell, c'est totalement la continuité d'OpsiWeb. Alors il y a plusieurs choses dans la loi Rodwell. Il y a notamment des choses.
Tu peux rappeler ce que c'est OpsiWeb?
OpsiWeb, ouais, c'est OpsiWeb, le fichier. c'est le fichier qui recense les noms de toutes les personnes qui ont été hospitalisées sous contrainte au cours des 3 dernières années et qui est croisé avec les fichiers de la préfecture des personnes qui sont surveillées pour risque de radicalisation et de terrorisme. Voilà. Et la loi Rodwell, donc, qui s'inscrit pareil dans cette idée de lutter contre le terrorisme, donc une logique très sécuritaire. Il y a donc plusieurs choses déjà pour les personnes étrangères ou sans papier. Je crois qu'il y a des allongements de durée de rétention en CRA. Pour les personnes trans aussi, réfugiées ou étrangères, il y a des choses complètement inhumaines, notamment de refuser le changement d'état civil la personne vient d'un pays où c'est interdit. Donc... voilà, enfin pour les personnes qui sont réfugiées, les personnes LGBT réfugiées, bah ok, super, on les déshumanise encore plus. Et une autre partie de cette loi, c'est consiste à permettre au préfet d'imposer une expertise psychiatrique aux personnes qui sont en garde à vue. Ce qui n'existait pas jusqu'à présent, et ça permet d'étendre les pouvoirs du préfet, même si le préfet a déjà des pouvoirs, notamment sur les hospitalisations sous contrainte. Il peut être saisi pour décider de l'hospitalisation sous contrainte d'une personne. Mais là, peut imposer une expertise psychiatrique. Et en fait, ce qu'on est beaucoup à voir, à craindre et à anticiper, c'est que ça va permettre d'hospitaliser beaucoup plus de personnes sous contrainte en psychiatrie, toujours plus de personnes. Et en fait, c'est une manière, vous disiez, de surenfermer. En fait, c'est une continuité de ça, de surenfermer des personnes. Et avec, derrière, un sous-ton de... Bah, vu que c'est de la lutte contre le terrorisme, donc forcément des motivations racistes, teintées de racisme, d'islamophobie, et aussi de répression de mouvements sociaux, de lutte. Et comment la psychiatrie va s'allier à ça? Il y a une tribune qui est sortie sur le numéro 0, je crois. Je ne sais plus qui l'a faite, qui résume bien ça et qui montre aussi comment, dans des états autoritaires, la psychiatrie est aussi utilisée pour enfermer des opposants politiques, quoi. Et ouais, ça fait quand même assez peu de bruit. ça n'a pas l'air de... En gros, on peut se retrouver en garde à vue et on peut se retrouver forcé à devoir passer une expertise psychiatrique, quoi.
Et sachant que la possibilité de l'enfermement psy qui est juste à la clé, quoi.
Mm. Ouais, bah les deux en même temps, quoi. Psy et pas psy. Enfin, de toute manière, enfin, si on vient de, du coup, là, je vais redire. J'ai dit 27 mars. Tout à l'heure, on est le 27 mai. On vient de discuter justement le 27 mai dans l'émission qu'on passera le 29 mai. Du coup, justement de ça, de en fait le fait que les experts psy sont vraiment genre un maillon de la chaîne pédale et permettent en fait vraiment et donc du coup on imagine qu'en fait les mettre au tout début de cette chaîne pédale qui est en fait plutôt le début, la garde à vue, et ben on imagine ce que ça va produire ensuite sur en fait le fait que les gens vont soit être enfermés du coup en HP sous contrainte, soit en fait être genre diag dans leur avec leur billet genre de manière dégueulasse parce que genre les gens on les pense comme dangereux et du coup ça va forcément bah c'est des trucs qui vont être lus par le juge, ça va genre jouer sur en fait quelle peine on met aux gens, enfin tout ça voilà, et ça joue déjà en fait quand on est, mais là aussi ça peut se rallonger au compas, enfin au fait de aux comparaisons immédiates où c'est déjà une justice très expéditive et le fait d'être étiqueté bah justement c'est ce qu'on disait pas totalement fou parce que quand même responsable de celle-là parce qu'on aura quand même envie de mettre un peu de prison parce que sinon c'est pas voilà c'est pas fun bah en fait ça va venir en fait justement genre justifier des peines de prison en fait de plus en plus fortes et en venant bah, du coup psychiatriser les gens et tout quoi. Voilà, ça fait flipper.
Non, et puis pour rebondir sur ce que tu dis, dans l'émission du 27 mai passé le 29, on avait aussi dit que la première expertise psy était la plus déterminante, en fait, et la plus prise en considération par les juges dans les parcours judiciaires et carcéraux des gens. Voilà, déjà, de toute façon, ces expertises psy, c'est n'importe quoi. De base. Et en plus, si on les fait dans les conditions qui sont celles de la garde à vue, ça va être vraiment encore pire.
Mais en fait, la garde à vue, elle est faite pour vraiment faire craquer les gens dans des conditions psychologiques où, genre... Enfin, en fait, toute personne en garde à vue, peut être dans un truc de détresse psychologique et du coup, faire une expertise psy à ce moment-là, c'est même pas une question de folie. Enfin, juste, on peut tous genre, péter un plomb en garde à vue et ça arrive à plein de gens parce que c'est des conditions qui sont aussi faites pour ça, en fait, pour te faire craquer. Et du coup, voilà, ça implique plein de choses de faire, en fait, une expertise psy en même temps, genre même pas une heure, enfin, voilà, bref.
Dans ces conditions-là, quand t'as pas dormi, enfin, bref.
Ouais, voilà.
Et je pense que, du coup, d'avoir toutes ces considérations, je pense que c'est vraiment important que les gens... comprennent ce dont il s'agit, quoi, en fait, et à quel point c'est dangereux. Et aussi, je pense que ça montre bien à quel point... les diagnostics psy, le fait d'être considéré comme fou, folle, le fait d'être psychiatrisé, il y a une énorme part d'arbitraire dedans. Et c'est aussi un truc de, des fois, de conditions matérielles d'existence, de circonstances dans lesquelles on se trouve, des biais dans la personne qui nous met l'étiquette sur la tête. Et y a ça, en fait. Enfin, c'est une part toujours plus grande d'arbitraire, quoi.
Et d'ailleurs, dans l'émission qu'on avait enregistrée le 27 mai, on avait longuement parlé de la manière dont les biais racistes et islamophobes jouent aussi dans la manière dont la psychiatrie pose ses diagnostics sur les gens.
Ouais. Ouais, tout à fait. Ou des biais sexistes, par exemple, quand il s'agit du traitement par électrochoc, ce genre de choses. Et les psys, dans leurs études, on leur apprend pas à déconstruire leurs biais racistes, sexistes, pas du tout. Et il faut aussi bien comprendre que la psychiatrie, c'est une discipline qui a... beaucoup, qui a joué un rôle dans l'imposition d'un ordre colonial dans le monde et qui a contribué à façonner la domination coloniale et aussi a contribué à façonner le patriarcat, enfin bref. Et du coup, je pense que c'est important de comprendre ce contexte et de comprendre à quel point, en fait, si la personne en face décide qu'on est fou, folle, qu'on est irrationnel, qu'on doit avoir un diagnostic psy. Si cette personne est considérée comme le sachant, l'expert, ce sera le cas, en fait. Et du coup, ça devrait un peu nous faire réfléchir à qui se retrouve avec ces catégories à l'heure actuelle sur le dos, quoi, sur le front, et qu'est-ce qui mène à ce que les gens soient considérés comme tels, quoi, aussi.
Et vous rappelez que c'est pas des gens du tout qui sont là, en fait... pour l'émancipation des gens, en fait, qui sont là pour... Non, mais c'est un truc un peu important, parce qu'en fait, c'est ce qu'on a dit dans cette fameuse émission qu'on a enregistrée, mais aussi, du coup, qu'en fait, ils reproduisent le système qui est en place, ils l'appuient, et voilà, ils viennent... En fait, c'est pas des gens qui voient le monde... Enfin, qui essayent de voir le monde dans... Et voir ce qu'en fait, aussi, ces lieux d'enfermement ont produit chez les gens, en termes de folie ou autre. Enfin, voilà, quoi, c'est... ils font vraiment partie de je pense que j'ai répété ça 10 fois dans cette émission, mais c'est important de remettre, de redire que la psychiatrie dans son ensemble, et en vrai, même si on va plus largement, genre le système médical appuie les logiques d'enfermement de toujours les mêmes populations, et en fait ne veut pas voir en fait le social, qu'est-ce qui se passe en fait pour ces gens là, les réalités en fait qui sont autres que les individualités, et de dire mais en fait c'est parce que tes parents ils sont séparés quand t'avais 4 ans et en fait c'est pour ça que t'es comme ça, enfin non mais en vrai parce que c'est des discours qu'on entend vraiment et qu'il faut, enfin voilà,
dans les tribunaux
exactement et du coup qui aussi produisent des effets sur le réel, de condamner des gens toujours plus de la même manière et de pas comprendre en fait qu'est-ce qui emmène les gens, enfin voilà, de toute façon le but n'est pas de comprendre en fait le but est d'enfermer des catégories de population et de les enfermer toujours plus, en vrai c'est ça le but final, mais donc c'est de rappeler que ces gens là voilà participent entièrement à ça quoi.
Ouais, et donc c'est sûr que voilà, avoir tout ça en tête, en fait il faut l'avoir en tête pour comprendre à quel point c'est effrayant les perspectives qui sont ouvertes par la loi Rodwell.
Ouais, et l'ampleur de ce que ça peut permettre en termes de répression quoi, et d'enfermement.
Et je crois qu'il y avait une dernière perspective législative horrible, voilà, pour faire un peu le musée des horreurs des idées du gouvernement en ce moment, qu'on fait souvent, malheureusement, ici, à l'envolée, c'était la loi fin de vie qui, au moment où on enregistre cette émission, est en fin de parcours. Enfin, voilà, il y a encore une navette, mais ça va être voté incessamment sous peu.
Oui, alors je crois que la loi sur les soins palliatifs a été votée, sur l'élargissement des soins palliatifs, mais concernant ce qu'on appelle, ce qui est appelé l'aide à mourir, c'est compliqué entre l'Assemblée et le Sénat, parce que bon, l'Assemblée l'a voté, mais le Sénat, je pense que le groupe politique qui s'est le plus opposé, je pense que c'est les Républicains, et le Sénat est une majorité à droite, beaucoup de Républicains, donc... ça va pas... je sais pas exactement ce que ça va donner, même si, bon, de toute façon, si ça passe pas là, il y a toujours des risques que ça passe derrière. La loi fin de vie, beaucoup de gens vont dire oui, c'est la liberté ultime, c'est pour les personnes, du coup, qui vont mourir sous peu, qui sont en grande souffrance, c'est ce qu'on s'imagine, en fait. Mais telle qu'elle est rédigée, pas du tout. Il y a très peu de garde-fous. Et elle laisse la place, en fait, à beaucoup d'interprétations très, très larges, en fait. Il y a l'idée d'un État qui ne va pas s'améliorer à moyen ou long terme, et d'un État qui cause de grandes souffrances. Et ça peut tout à fait concerner des personnes psychiatrisées, des personnes en psychiatrie, parce que si on considère que... qu'on a un diagnostic psy, qu'on a une maladie mentale, telle que c'est compris, telle que c'est codifié par le pouvoir médical, qui nous fait souffrir, et que en plus, ce que nous renvoie la psychiatrie, c'est que ça va pas s'améliorer, c'est que voilà, faut prendre ses médicaments, faut aller en thérapie, mais bon, faut pas s'imaginer que ça va s'améliorer, que bon, notre vie, elle est un petit peu fichue ou quoi que ce soit. Il y a plein de gens qui vont se tourner vers ça, en fait. Et beaucoup de gens aussi qui ont passé une grande partie de leur vie en institution, parce qu'en France, il y a énormément d'institutions ségrégatives pour les personnes handicapées, dès l'enfance, avec les instituts médico-éducatifs, et par la suite, bah, toutes les sortes de les maisons d'accueil spécialisées, foyers d'accueil médicalisés, j'espère que je ne me trompe pas, les ESAT, enfin beaucoup d'espaces ségrégatifs. La France, c'est vraiment un pays où les personnes handicapées sont complètement séparées du reste de la population. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui auront passé aussi beaucoup, très longtemps de leur vie en institution, qui souhaiteront en fait avoir recours à l'aide à mourir. Et si on regarde dans d'autres pays où ça existe, et en fait, alors par exemple au Canada, il y a des personnes qui ont accès à l'euthanasie parce que elles sont trop pauvres pour pouvoir se permettre d'avoir accès aux aides à la mobilité ou aux adaptations dont elles ont besoin en fonction de leur handicap. Il y a des personnes qui sont euthanasiées parce que leur aidant est en burn-out. Ça, c'est un cas qui est arrivé. Aux Pays-Bas, il y a des mineurs qui sont euthanasiés, des mineurs en psychiatrie, et c'est surtout des jeunes filles.
parce que elles sont en grande souffrance et en fait elles veulent mourir, elles sont suicidaires, elles veulent mourir, elles veulent en finir. Et la perspective qu'on leur offre, c'est l'euthanasie. Et c'est vraiment terrible de se dire que... Et en fait, c'est pas seulement une question d'âge, mais c'est quand même un truc de se dire des personnes mineures qu'on va euthanasier. Et je me rappelle, j'avais lu le cas d'une jeune fille qui, en plus, avait vécu des violences sexuelles en HP. Donc, il y a vraiment un truc, mais absolument horrible, où... en fait, on se débarrasse des victimes de ce système, comme ça. Et vraiment, combien de personnes vont se tourner vers ça ? Parce que, aussi, en face, on va leur dire qu'il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'alternative. Et c'est vraiment... il ne faut pas croire qu'en France, on va être protégé ou je ne sais pas quoi, ou que la loi telle qu'elle est, elle est bien formulée et tout ça, sachant qu'on a des députés de gauche qui ont souhaité mettre comme condition pour l'accès à l'aide à mourir le fait d'être dépendant. Sachant que la dépendance, c'est un truc, faut aussi le définir. Et du coup, ça induit aussi le fait que la dépendance, c'est une chose mauvaise et que mieux vaut être mort que dépendant d'autrui. Et ça va aussi induire l'idée que pour certaines personnes qui sont dépendantes, soit parce qu'elles ne peuvent pas travailler, enfin pour plein de raisons, soit parce qu'elles sont en mobilité réduite, pour plein de raisons, en fait, qu'elles sont un poids, un fardeau pour les personnes qui les aident, et en fait, elles vont se diriger vers l'aide à mourir parce qu'on leur met dans la tête, c'est déjà ce que la société leur renvoie au quotidien, qu'elles sont un poids pour la société, qu'elles sont un poids pour les gens autour d'elles, quoi.
Ouais, puis du coup, qu'elle mérite pas la vie, enfin, par extension, et que aussi, enfin, c'est une manière de tout ce qu'on a décrit dans l'émission du 27 mai, c'est du coup, en fait, aussi légaliser des pratiques de mise à mort des gens qui sont, en fait, déjà le cas en HP. On a parlé de l'HP de Melun où il y a eu 7 morts en un an et demi, et ensuite des pratiques qui se passent à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on laisse sortir les gens avec des médicaments qui vont les tuer, comme le cas de Charlotte. Aussi, on a parlé dans cette émission, mais du coup, qui s'est tué après, enfin pendant une permission à cause d'une injection de zépion. Et du coup, enfin voilà, et plus toutes les personnes aussi dont on ne parle pas, mais en fait qui meurent à cause de la psychiatrie directement ou indirectement. Et là, en fait, c'est juste légaliser et dire en fait, il y a vraiment littéralement des gens qui, genre, ne méritent pas de vivre et d'autres qui méritent la vie. Et donc, les personnes handicapées, en fait. Enfin, par extension, c'est à ça que ça mène, quoi. C'est vraiment légaliser des pratiques qui sont déjà en place, quoi.
Déjà. Et aussi, si tu fais un peu de veille, mais alors ça va être surtout dans la presse quotidienne régionale, des médecins qui décident de mettre à mort des personnes handicapées, et là, ça sort du cadre de la seule psychiatrie, ça existe, ça arrive, en fait. Il y avait eu le cas qui a été rapporté il y a quelques mois, je crois que c'était par le Bondy Blog, d'un homme trisomique d'une quarantaine d'années, c'était à la Pitié-Salpêtrière, où on lui avait refusé une prise en charge. Il s'était retrouvé tétraplégique, à la suite de ça. Et quand sa famille a demandé à ce qu'il soit pris en charge par la suite de nouveau, il avait besoin d'une opération, ce que le médecin lui avait dit, c'était « bon, ça va, il a vécu assez longtemps, quoi ». En gros, bon, un trisomique qui a vécu jusqu'à 40 ans, bon, ça va, quoi. Où j'avais lu aussi un article, je crois que c'était à Angoulême, d'un homme, encore une fois, trisomique d'une soixantaine d'années, qui s'était rendu aux urgences parce qu'il avait des douleurs. Et en fait, le médecin a dit « je vais le soulager ». En fait, il lui a administré des doses de morphine et d'anxiolytiques létales qui l'ont tué. Et ça, c'est... Enfin, des meurtres médicaux, il y en a, ça existe. Et ils vont toucher. Et aussi, on sait aussi... Ça va des fois être de une négligence coupable, volontaire, de non-prise en charge. Enfin, on a eu beaucoup de cas. On en parle souvent dans les cas de racisme médical. On parle de syndrome méditerranéen. Mais aussi pour des personnes handicapées. Et en fait, il y a toute une vision eugéniste. Enfin, il y a tout un projet eugéniste. Et cette loi, elle n'est pas là pour... faut arrêter de se mentir. Elle est là pour éliminer des gens qu'on estime indésirables
et pour économiser de la thune, en fait, sur le dos de ces gens-là, quoi. Enfin, et de dire qu'en fait, il y a des vies qui valent pas la peine d'être vécues, quoi.
Mmh. Ouais. Mais ouais, du coup, avec toutes ces perspectives légales, je pense que... Enfin, c'est aussi pour rappeler que, du coup, je pense que c'est un truc qu'on fait pas mal à l'envolée, d'analyser les lois qui sont passées, on sont en train de passer, justement parce qu'en fait, ces lois, c'est par genre le cadre légal qu'on arrive à saisir en fait, voilà genre comment la logique ensuite en fait répressive qu'il développe petit à petit en fait, et du coup c'est important, enfin tu le disais, mais peut-être enfin de dire déjà où est la gauche là, ce qui paraît, enfin voilà, déjà il y a enfin juste aussi des fois on a, enfin c'est comme sur la loi narco, la FI enfin n'a absolument pas bougé, enfin il y a aussi en fait déjà des responsables à l'Assemblée qui peuvent en fait même si voilà ils ont pas la majorité, je m'en tape, c'est pas ça, c'est juste aussi produire un discours et nous c'est important aussi justement de produire aussi un contre-discours sur ces lois là et d'arriver en tout cas à analyser, dire ce qui s'y passe, les lire, enfin voilà, du coup, c'est ce qu'on essaye de faire à cette antenne. Et voilà.
Bah encore merci Azé pour être venue là. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur tout ça.
Non, merci beaucoup à vous de m'avoir invitée, en tout cas, de m'avoir laissé cet espace pour parler de tout ça et d'avoir. Enfin, j'ai beaucoup aimé échanger avec vous et enfin, c'est vraiment chouette de laisser de la place à ce sujet et d'essayer de croiser, justement, je pense, on a vraiment besoin d'avoir une approche anticarcérale du sujet et c'est important de faire des liens là-dessus, quoi.
Bah ouais, on est très contents, enfin, on était vraiment, c'est nous qui sommes très contents de t'avoir reçu en vrai et je pense que nous, on regrette à l'envolée, justement, de pas assez analyser le système médical, enfin, justement, et du coup, ces émissions qu'on a fait ensemble, elles permettent en tout cas de construire justement ce discours-là. Qu'on développe avec les prisonniers, avec les enfermés et tout, sur anticarcéral et du coup, qui comprend aussi la psychiatrie et le monde médical. Et du coup, pour ça, merci d'avoir pris le temps avec nous et tout. On était trop contente de
avec plaisir.
Recevoir.
Merci à vous. En
tout cas. Merci.
Voilà, vous venez d'écouter l'émission de l'Envolée du 24 juillet 2026. Un bricolage de pas mal de paroles contre la prison. On va vite vous laisser. On vous prévient, malheureusement, pendant le mois d'août, on ne peut pas assurer d'émission. Donc, on va vous passer tous les vendredis soirs à partir de 19h des rediffusions d'émissions qu'on a fait pendant l'année. Et on va surtout passer des rediffusions où ça parle des QLCO parce qu'on pense que c'est super important, même si on radote un peu, c'est super important de parler de ce qui se passe dans les QLCO. Et de se solidariser avec les prisonniers et leurs proches de ces prisons en particulier. Je vous laisse, on se retrouve pour une émission en direct à la rentrée en septembre. Bon courage à tous et toutes. D'ici là, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous rappelle l'adresse, l'envolée-fpp, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Le téléphone 07 53 10 31 95. Laissez un message au 07 53 10 31 95. Messagerie sécurisée, ça peut marcher aussi. Voilà, plein de pensées, plein de force, courage et détermination à tous les prisonniers, prisonnières, à leurs proches. Une pensée particulière à ceux et celles qui nous écoutent. Ça fait super plaisir, n'hésitez pas à faire des retours. On est là pour dialoguer et on pense grave à vous, même si on ne sera pas en direct en août. On pense à vous. Courage à tous et toutes. Il n'y a pas d'arrangement.